L'actualité des Alpes du Sud, les personnes délogées au Mai peuvent rentrer chez elles.
C'est l'une des décisions prises lors du point de situation réalisé ce lundi en début d'après-midi à la suite des expertises réalisées depuis la chute de cette roche d'un mètre cube qui s'est disloquée d'un des pénitents.
Jean-Michel Arnaud fait sa rentrée à la Reine-Montéglin.
En tant que rapporteur du Sénat de la mission commune d'information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restriction d'activité, le sénateur des Hautes-Alpes était ce lundi matin à l'école élémentaire de Pierre Magnan.
Mercredi sera jour de vaccination pour les enfants à Manosque.
En effet, les 5-11 ans pourront se rendre tous les mercredis de 10h à 14h au centre Osco Manosco afin de recevoir leur dose de sérum sans aucune prise de rendez-vous.
Et puis le contrôle des armes qui fait sa mue sur le territoire.
Dans le cadre de sa politique de transformation numérique engagée en 2019, le service central des armes et explosifs du ministère de l'Intérieur a présenté ce lundi au niveau régional son système d'information sur les armes ou SIA, successeur de l'application vieillissante Agrippa qui recensait jusqu'alors les détenteurs d'armes. La météo Thierry.
Alors soleil et nuages au programme de ce mardi. Alors autant sec hein, et ciel lumineux sur nos deux départements avec toujours quelques passages de nuages élevés et puis un plafond nuageux qui va s'abaisser en fin de journée à l'avant d'une perturbation qui nous apportera un peu de neige. Donc dans la nuit, les températures maxi sur nos deux départements, ça s'échelonne de 10 à 15 degrés. Et donc, Christophe, les personnes délogées au Mai pourront rentrer chez elles.
C'est l'une des décisions prises lors du point de situation réalisé donc ce lundi en début d'après-midi à la suite des expertises réalisées depuis la chute de cette roche d'un mètre cube ce jeudi qui s'était disloquée d'un des pénitents. Aucun blessé et aucun dégât matériel important n'ont été constatés. Pour rappel, en décembre 2019, trois maisons ont été emportées suite à la chute d'un pénitent sans faire de victimes, alors qu'un plan A prévoyait d'effacer totalement le périmètre de sécurité. Il a été mis de côté, selon Sébastien Etienne, directeur général des services de la mairie et des Mets, en faveur d'un mix des deux autres options envisagées.
On va revoir le périmètre. Il est réduit à peu près de moitié. Hein. Plutôt que d'aller vers le centre-village, il va être plus resserré sur l'aplomb des pénitents et un peu plus long et un peu moins large, de manière à pouvoir faire regagner certaines personnes chez eux, hein, presque toutes. Quand je dis quasiment toutes, c'est qu'il y a des locaux à usage d'habitation, donc c'est effectivement le cas. Et par contre, il y a des locaux de stockage, garage. Là, effectivement, il va y avoir peut-être une problématique sur un ou deux locales, mais qui sert de stockage, hein, où il n'y a pas d'habitation. Donc, ce qui est beaucoup moins problématique. Il n'empêche que, avant la fin de la semaine, il y aura des travaux de purge, hein, de fait. C'est-à-dire, effectivement, on va mandater une société pour qu'elle puisse sécuriser les lieux et faire tomber encore les éléments, hein, qui sont au-dessus de l'écaille, hein, présents sur place. Je pense que ça aura lieu mercredi, jeudi, vendredi.
Un nouveau point de situation sera organisé ce mercredi par la mairie avec la régie des transports métropolitains, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, ainsi que la direction départementale des territoires.
Une exploitation viticole a pris feu à Manosque.
Au niveau du lieu-dit Domaine Saint-Jean, un incendie d'origine inconnue a débuté ce lundi en début d'après-midi au niveau de l'aile d'une bâtisse qui mesure 150 mètres carrés au sol. Un bureau et un couloir de 30 mètres carrés ont totalement été détruits par les flammes, alors que 50% du reste de l'aile l'a été par les fumées. La bâtisse qui jouxte cette partie de l'habitation impactée par le feu est restée intacte. Au total, 15 pompiers de Manosque et de Volx se sont rendus sur place, à l'instar de la police nationale, Enedis et la municipalité. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, même si la personne qui y vivait, un homme de 90 ans, a ressenti une gêne après avoir inhalé de la fumée et a été transféré au centre hospitalier de Manosque. Il sera relogé par sa famille à la sortie de l'hôpital. Notez finalement que l'électricité a d'ores et déjà été réinstallée dans la cave et l'exploitation viticole pourra poursuivre sans mise en place de chômage technique.
À la page du Covid, la tension hospitalière est de plus en plus forte dans les Alpes du Sud.
Selon Covid Tracker, le taux d'incidence est de 1396 dans les Alpes de Haute-Provence et de 1356 dans les Hautes-Alpes. La nouvelle année s'ouvre avec une flambée épidémique. Des airs de déjà-vu en pire, résume le docteur Pierre-Yvan Simonoviez, le chef du service réanimation au sein du CHICAS de Gap et directeur médical de la crise sanitaire Covid, était l'invité du 8-30 ce lundi sur Alpe 1. De plus en plus de gens infectés et plus assez de personnel. Les difficultés se ressentent dans les services du côté du CHICAS. Comme d'autres établissements hospitaliers, on appelle la population à se faire vacciner et le discours des antivax a de plus en plus de mal à être compris par le corps médical.
Vendredi, on avait 4 Covid dans la réanimation. On avait réussi à en faire sortir plein. 2 jours après, on a 10 Covid dans la réanimation. Il n'y en a que 2 de vaccinés. Une qui est vaccinée mais qui a une maladie immunitaire qui fait qu'on sait très bien qu'elle va avoir une moins bonne réponse à la vaccination. Et un, effectivement, on peut se dire que le vaccin n'a pas marché. Mais je vous rappelle que le vaccin, il marche qu'à 95% des cas. Après, tous les autres ne sont pas vaccinés. Donc, notre réanimation aujourd'hui n'est débordée qu'à cause des gens qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est un fait. Il suffit d'aller à la morgue de l'hôpital de Gap pour savoir si les chiffres ils sont justes ou pas. Vous verrez bien qu'il y a beaucoup de box où il y a marqué Covid. Et c'est pas que les gens sont morts avec le Covid, ils sont morts du Covid. Donc nous, on informe les gens, après ils font leur choix, et s'ils estiment qu'il ne faut pas se faire vacciner, nos hôpitaux continueront à être débordés, et notre pays continuera à devoir prendre en charge un niveau d'épidémie, en tout cas, qu'on pourrait éviter.
Une proposition fait aujourd'hui débat, celle du député LR du Nord, Sébastien Huyghe, de faire payer les soins Covid aux patients non vaccinés. Pourquoi pas, répond le docteur Pierre-Yvan Simonoviez, non pas sur l'ensemble de la facture qui peut représenter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros en cas d'hospitalisation à long terme, mais une participation forfaitaire conséquente.
Mercredi sera jour de vaccination pour les enfants à Manosque.
En effet, les 5-11 ans pourront se rendre tous les mercredis de 10h à 14h au centre Osco Manosco afin de recevoir leur dose de sérum sans aucune prise de rendez-vous. Pour ceux qui présentent des pathologies connues, il est préférable qu'ils viennent avec un certificat médical de vaccination ou d'éligibilité fait par le médecin qui les suit. Notez que le parent accompagnant pourra même en profiter pour se faire vacciner à l'occasion de ce créneau dédié aux enfants.
Et puis on reste donc du côté de Manosque avec le retour du recensement.
Étant une commune de plus de 10 000 habitants, 8% des adresses répertoriées de la cité Genot sont tirées au sort chaque année. Si vous êtes concerné, des agents recenseurs se rendront chez vous début janvier afin que la mairie ait une meilleure connaissance de sa population pour la mise en place de ces projets. Par la suite, les Manosquins recensés auront du 20 janvier au 26 février pour remplir ce questionnaire, soit en ligne, qui est la solution privilégiée, soit à l'écrit en le donnant aux agents recenseurs après avoir pris rendez-vous. Notez que vos réponses sont strictement confidentielles.
Et puis Jean-Michel Arnaud, qui a fait sa rentrée donc à la Reine Montéglin.
En tant que rapporteur du Sénat de la mission commune d'information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restriction d'activité, le sénateur des Hautes-Alpes était ce lundi matin à l'école élémentaire Pierre Magnan, l'occasion d'y procéder à un vaste tour d'horizon sur les mesures mises en œuvre dans les établissements scolaires et d'échanger avec le corps enseignant. L'ancien maire de Tallard s'engage de directement interpeller le ministre de l'Éducation nationale avec une note de recommandation avec l'accent mis sur le métier de directeur qui doit disposer d'un statut facilitateur pour l'exécution de cette responsabilité de plus en plus lourde.
Alors, autre sujet dans l'actualité, Christophe, c'est le contrôle des armes qui fait donc sa mue sur le territoire.
Dans le cadre de sa politique de transformation numérique engagée en 2019, le service central des armes et explosifs du ministère de l'Intérieur a présenté ce lundi son système d'information sur les armes SIA, successeur de l'application vieillissante Agrippa, qui recensait jusqu'alors les détenteurs d'armes. Pour information, on en dénombre 18 000 pour 40 000 armes dans les Alpes de Haute-Provence et 11 000 possesseurs pour 31 000 armes dans les Hautes-Alpes, avec une volonté de moderniser une gestion obsolète et une réglementation complexe. Le SCAAA se déplace depuis novembre 2021 et jusqu'à février 2022 dans les différentes régions de France pour informer les professionnels, les préfectures ainsi que les représentants locaux des fédérations de chasse, tir et balles trappes. L'occasion pour Jean-Simon Méranda, chef du service central des armes et explosifs, de rappeler l'importance de la sécurité publique par le biais de ce dispositif qui a trois objectifs majeurs.
1. La traçabilité des armes à feu, de bout en bout, c'est-à-dire de leur arrivée sur le territoire national jusqu'à leur destruction ou à leur sortie du territoire national. On a également la mise en place du contrôle récurrent, puisqu'aujourd'hui, vous achetez une arme de catégorie C, vous étiez contrôlé au moment de son acquisition, au fichier de police, au casier judiciaire, au fichier des antécédents psychiatriques, et ensuite, vous ne l'étiez plus du tout du reste de votre vie. Donc, on voit bien l'angle mort sur cet aspect-là. Donc, avec la mise en place du SIA, on va pouvoir déployer un contrôle à minima annuel sur un certain nombre de ces fichiers, et pour un certain nombre d'entre eux, un contrôle en temps réel. Et ensuite, on va lutter également contre la fraude documentaire. Dans le cadre de l'acquisition d'armes, on nous fournissait régulièrement de faux permis de chasse, de fausses licences, de faux certificats médicaux. Dorénavant, on va s'interconnecter avec le système d'information des fédérations, Fédération nationale des chasseurs, Fédération française de tir, de ski et de baltrap. Donc ça va nous permettre de lutter contre cette fraude. Deuxième finalité du SIA, c'est la simplification. Simplification de la réglementation que nous permet l'outil, simplification de ce fait des démarches administratives et de l'instruction des dossiers par les préfectures. Et troisième finalité, la dématérialisation. On passe d'une procédure entièrement papier à une procédure entièrement dématérialisée par le biais de cet outil numérique.
Déjà déployé chez les armuriers, le SIA sera opérationnel le 8 février prochain pour les chasseurs et les préfectures à l'occasion du colloque européen du contrôle des armes au domaine national de Chambord. Cette mise en place se poursuivra progressivement dans les mois qui suivront pour les 5 millions d'usagers concernés par ce nouveau système d'information. Notez que chaque détenteur devra créer avant le 1er juillet 2023 un compte personnel pour conserver son droit à détenir une arme.
Et on termine avec les habitants de Puy-Saint-Pierre informés sur une nouvelle antenne relais 4G.
À compter de ce lundi et pendant un mois, la population de la commune Haut-Alpine a accès au dossier d'information mairie dans le cadre de l'implantation de l'antenne relais du programme New Deal visant à améliorer la couverture de téléphonie mobile des quatre opérateurs que sont Bouygues Télécom, SFR, Free et Orange. Après une consultation publique durant l'été 2021, ce document est téléchargeable sur le site internet de la municipalité ou consultable en mairie aux horaires d'accueil du public. Notez que Bouygues Télécom, qui gère ce projet, a concédé de payer 2500 euros de redevance par an au lieu de 500 euros initialement proposés pour la parcelle communale mise à disposition, le montant le plus élevé pour le déploiement d'une antenne relais dans le département des Hautes-Alpes.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.